Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Patara, le débat politique de Radio Ndiki Lukia. Nous parlons aujourd'hui de l'organisation des élections législatives avec les défis sécuritaires et organisationnels. En effet, les élections groupées du 27 décembre ont été perturbées par l'insécurité provoquée par la coalition des Patriotes pour le changement CPC. Ces élections n'ont pas pu se tenir dans plusieurs circonscriptions électorales du pays. Or, la MINUSCA et le gouvernement avaient préalablement annoncé un plan de sécurisation des scrutins. Mais hélas, ce 27 février, la campagne électorale s'ouvre pour les partiels et le second tour des législatives, et ce jusqu'au 12 mars prochain. Les députés, ayant tiré la leçon du passé, ont demandé au gouvernement une garantie avant la tenue des scrutins, mais leur demande reste lettre morte. L'on se demande que sera le nouveau plan de sécurisation des législatives en cours, que feront le gouvernement et la MINUSCA pour sécuriser les acteurs électoraux, comment éviter les erreurs du passé. Et pour en parler, je reçois M. Vladimir Montero. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la MINUSCA, la mission onusienne en Centrafrique. André Nalke-Dorogo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député de Berberati 4 et vice-président de l'URCA. Monsieur Théophile Momokwama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rapporteur général de l'Autorité nationale des élections et ancien porte-parole de la Cour pénale spéciale. Et monsieur Gervais Lacosse, bonjour.
Bonjour.
Coordinateur du groupe de travail de la société civile, artiste musicien, conteur, metteur en scène et scénariste. Je suis Armand Nguindi et la technique est assurée par Anne-Alix Pounemati, assistée de Miguel Bangakoté. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndiki Lukia.
Voilà, nous ouvrons le bal avec M. Momokwama. Avez-vous reçu des garanties pour la poursuite de ce processus, notamment l'organisation des scrutins du 14 mars prochain?
Mais la garantie en termes d'organisation, c'est par nous-mêmes que nous devons nous atteler à la mission qui nous est confiée par la loi. Et donc nous travaillons depuis la fin de dépouillement de la publication des résultats du premier tour des élections groupées de décembre 2020 sur la préparation donc des législatives, puisque comme vous le savez, il y a eu déjà l'élection du président Touadéra dès le premier tour à l'élection présidentielle. Et donc, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez qu'on parle de garantie, ce serait peut-être sur la donne sécuritaire qui a été un élément déterminant dans l'impact négatif que nous avons subi lors des scrutins de décembre dernier.
On va revenir pour en savoir davantage. Monsieur Vladimir Montero, la MINUSCA a élaboré un plan de sécurisation des élections du 27 décembre dernier. Est-il encore utile ou bien d'actualité?
Bonjour, la MINUSCA n'a pas de plan de sécurité. C'est un plan du gouvernement auquel la MINUSCA a contribué en termes de rédaction, en termes de mise en œuvre avant le 27 décembre, le 27 décembre et depuis. Ça, c'est la petite rectification. Le deuxième point que je voulais soulever ici, vous avez parlé de 27 décembre 2020 et des incidents. Dans son rapport discuté avant-hier au Conseil de sécurité, le secrétaire général a tenu à rendre hommage à l'ensemble des Centrafricains qui ont bravé ces menaces de groupes armés alliés à l'ancien président François Bozizé. Certains n'ont pas pu voter. Or, ces élections sont extrêmement importantes. Il faut que le pouvoir législatif soit constitué. Et ça passe par les
élections.
Le 14 mars. Il y a eu des incidents, nous le reconnaissons. Nous reviendrons sur toutes ces difficultés. Mais les différentes parties, mais à commencer par le gouvernement, avec notre contribution, les différentes parties ont discuté, ont essayé d'analyser ce qui n'a pas marché et cherchent à répondre pour que les candidats puissent faire campagne en sécurité, pour que les électeurs puissent voter. Donc il y a ce travail, et ce travail a été entamé dès le lendemain du 27 décembre.
Vous avez parlé du plan de sécurisation du gouvernement, mais la MINUSCA a contribué effectivement. Ce n'est pas un commun accord avec la MINUSCA, du 27 décembre.
Non, je veux dire que le plan, ce n'est pas un plan de la MINUSCA.
Ce n'est pas un plan de la MINUSCA, mais un commun accord.
C'est un plan du gouvernement, mais qui a été signé par le gouvernement à travers le Premier ministre, l'ANE à travers son ancienne présidente et la MINUSCA à travers le représentant spécial. Donc c'est un plan du gouvernement auquel nous apportons notre contribution comme il est prévu dans le mandat.
D'accord, on va revenir, M. Dorogo, avec les opérations militaires en cours et la reconquête de plusieurs villes précédemment occupées par les hommes armés. Peut-on dire que votre crainte a eu des réponses au niveau de l'URSS?
Bien, je vous remercie. Je voudrais saluer les auditeurs d'Ndekeluka, parce qu'il fut un moment où je n'ai pas pu échanger avec eux, occupés par les dernières élections. Mais je voudrais rappeler ici...
Et toutes nos félicitations, vous avez été réélu dès le premier tour.
Merci. Je voudrais rappeler ici que les élections, ce n'est pas un rituel. C'est un moment important de la vie nationale. Et cela doit se faire selon les canons appropriés. Donc je voudrais que ce rappel-là soit perçu. On ne va pas à des élections pour des élections. On va pour que le peuple souverain primaire puisse choisir ses représentants. Et dans les conditions les plus appropriées. Vous l'avez dit ici, notre pays est en guerre. C'est le président de la République qui l'a affirmé. Le gouvernement l'a redit. Nous sommes en guerre. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir comment aller à des élections alors que le pays est en guerre. Comment pouvoir parler de la crédibilité de ces élections? Comment protéger, je suis heureux que M. Montero soit revenu là-dessus, comment sécuriser les électeurs, sécuriser les candidats, les agents électoraux. Je suis également heureux que le rapporteur général de l'ANE soit là, parce que moi j'ai vécu ces événements en tant qu'acteur premier. Et je pense qu'on devrait réfléchir quant à la portée qu'on voudrait donner à ces élections. Et donc je viens ici pour savoir, vous l'avez également dit, on a interrogé le gouvernement là-dessus.
Monsieur les députés.
Monsieur Momokouama était là. Il est aussi bien nanti que moi pour donner les réponses. Les réponses n'ont pas été satisfaisantes de notre point de vue.
Est-ce que vous pouvez quand même brièvement expliquer les réponses du gouvernement que vous avez reçues, vous les députés? Comme ça les gens peuvent comprendre rapidement. Vous avez demandé des garanties, qu'est-ce qu'on vous a dit?
En deux mots. On a exigé des certitudes. En réponse, on nous a servi des pis-aller. Voilà en deux mots. Je n'en dis pas plus.
Monsieur Gervais Lacosso, vous êtes de la société civile, vous êtes coordinateur du GTC, groupe de travail de la société civile. Selon vous, que peut-on faire pour éviter les erreurs du passé, puisque nous savons que ça a été déjà consommé, mais on a encore un processus en cours?
Oui, mais déjà, je marque ma petite déception, parce que j'attendais que le député dise avec des mots un peu plus simples pour que le public, le peuple puisse comprendre quand le député dise qu'on leur a servi des pis-aller. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour le citoyen lambda. Parce que la réponse du gouvernement, ça ne devrait pas être confidentiel. C'est public. Le gouvernement a déjà répondu aux députés. Il faut que le peuple le sache. Et très respectueusement, j'aimerais bien que le député nous donne des informations là-dessus. Parce que...
Vous l'aurez.
Merci. En tout cas, nous, de la société civile, ce qu'on souhaite, c'est que le pays fonctionne normalement comme tout autre pays. Et les élections, c'est une activité à ne pas prendre à la légère. On ne devrait pas faire les élections dans la précipitation. Déjà, comme vous l'avez si bien dit, comment faire pour éviter les erreurs du passé? On a fait le premier tour dans la précipitation, vraiment sous pression. Il y a des compatriotes qui ont même perdu leur vie à cause des activités électorales, qui ont perdu des biens et tout ça. Bon, et on a eu déjà un président élu, mais il faudrait justement, parce que quand on est sage, on ne peut pas commettre la même erreur deux fois. Alors que selon ce que nous observons, les conditions sont en train d'être réunies pour que nous commettions encore les mêmes erreurs. Et donc, quand vous écoutez la réponse de la MINUSCA, ça demeure vraiment flou. On dit que c'est le plan du gouvernement, la MINUSCA assiste seulement le gouvernement, c'est vrai. Mais la MINUSCA est un acteur clé. C'est la MINUSCA qui dispose des éléments et tout ça à mettre à la disposition du gouvernement pour exécuter au mieux ce plan. C'est ce qui n'a pas fonctionné au premier tour. Parce que la MINUSCA ça tout le monde sait qu'en sus de son mandat de stabilisation a aussi un mandat électoral. Donc la MINUSCA devient un acteur clé de l'organisation des élections en République centrafricaine. Et je ne pense pas que ce rôle devait s'arrêter seulement au niveau technique pour appuyer l'AN et tout ça, mais ça doit aussi se faire valoir sur le plan sécuritaire et surtout avec les 12 000 hommes que la MINUSCA dispose. On ne devrait pas voir ce qui s'est passé au premier tour. Parce qu'au premier tour, les candidats étaient abandonnés à eux-mêmes dans des régions. Prenons le cas de Carnot, où il y a bel et bien eu élection. Trois personnes seulement sont venues en moto, tirer en l'air, foutre le désordre, prendre les urnes et aller brûler. Ça veut dire qu'il n'y a pas sécurisation. Il n'y a aucune sécurité. Sinon, trois personnes en moto ne peuvent pas entrer dans une ville, aller jusqu'à arracher les résultats des élections dans le bureau de vote et aller détruire.
Et en ce temps-là, est-ce qu'il y a des éléments de la MINUSCA à Carnot, selon vos informations?
Mais la MINUSCA est toujours à Carnot.
D'accord. On va revenir pour comprendre quel est le rôle de la MINUSCA exactement dans le processus de la sécurisation des élections, de ce qui s'est passé, puisqu'on ne va pas revenir sur les erreurs du passé, mais on va éviter ce qui s'est passé déjà.
Le mandat.
Oui, Montero.
En plus d'être... d'apporter une assistance technique, logistique, comme l'a rappelé M. Lacosso, c'est l'aspect sécuritaire. Et l'aspect sécuritaire, c'est d'utiliser les casques bleus qui sont présents dans les différents endroits pour protéger et intervenir. Et ils sont intervenus. Ils sont intervenus notamment à Bria. Ils sont intervenus lorsque des agents électoraux on cherchait protection pour pouvoir garder les matériels électoraux. Ils sont intervenus également pour protéger les populations dans certains endroits. Il y a eu des endroits, et très souvent on ne le cite pas, où les choses se sont bien passées, parce qu'il y a cette présence dissuasive. La MINUSCA a joué son rôle lors de ces élections, même s'il y a eu des failles, mais il faut comprendre pourquoi il y a eu des failles. Quand on fait ce plan...
Oui, le vrai problème, c'est quoi à ce niveau?
Quand on fait ce plan de...
sécurisation.
Quand on fait ce plan de sécurisation, qu'on le met en œuvre, on a François Bozizé, qui est encore candidat à la candidature. Sa candidature n'est pas encore invalidée par
la Cour constitutionnelle.
Et tout de suite après cette invalidation, il y a une succession de choses, c'est-à-dire ces rencontres avec ces groupes armés, ces alliances contre nature, des alliances, qui dit alliance dit des moyens de différents côtés qui se rejoignent pour constituer une force négative. Et face à cela, ça a été dit par un membre du gouvernement au lendemain des élections en conférence de presse, il y a eu un nombre extrêmement important avec des moyens notamment à boire et qui ont fait que ce plan n'a pas pu protéger et permettre la tenue des élections. Il faut voir dans ces difficultés ça. Qui sont les responsables et non pas qui a travaillé, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité et la MINUSCA qui ont pu faire le travail.
Et donc ça veut dire que l'avènement de la CPC a surpris la MINUSCA a surpris les acteurs de ce plan de sécurisation.
Évidemment, qui avait pensé, même quand on est entré au mois de décembre, que Bozizé, que les Antibalaka, que le 3R, que le MPC, que l'UPC allaient constituer cette alliance du mal qui viole, qui tue, qui a empêché les gens d'exercer leur droit de vote. Voilà le vrai problème. Mais, comme je l'ai dit, dans certains endroits, on a fait front. Les casques bleus, je réponds, ils ont fait front. Les FACA ont répondu, les FSI, là où ils étaient présents. Mais malheureusement, on est face à cette nouvelle réalité.
Une réalité. Merci beaucoup. Peut-être comme l'acte a été déjà consommé, on va changer, on va voir l'avenir et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire dans bientôt pour sécuriser les législatives en cours, les percées de second tour. Monsieur Derogo, vous voulez réagir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le plan de la sécurisation des élections du 27 décembre, puisque l'avènement de la CPC a vraiment surpris, a surgi beaucoup, beaucoup, et puis voilà, a rendu même le plan de sécurisation un peu perturbé.
Bien, je voudrais aussi rappeler, puisqu'on discute sur la nature de ce plan, mais si j'ai bien compris, ce plan a été intitulé « Plan conjoint de sécurisation ».
Intégré.
Intégré. Et les mots, chaque mot a sa place. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement en première ligne, mais la MINUSCA a toute sa part de responsabilité. Je ne voudrais pas faire de procès ici, mais comme je vous l'ai dit, j'ai été acteur. Je prends par exemple la résolution, la dernière résolution de 2020, surtout sur le plan des élections, où il est dit, je cite, que la MINUSCA est chargée de fournir un appui en matière de sécurité, un soutien opérationnel, logistique et le cas échéant, technique en particulier, de manière à faciliter l'accès aux zones reculées. Je prends un cas, c'est des faits, dans ma circonscription, Berberati 4. La MINUSCA a été chargée de déployer les moyens sensibles, c'est-à-dire les urnes, les bulletins, les isoloirs, ainsi de suite. Et la MINUSCA devrait amener ce matériel dans non seulement Berberati 4, mais jusqu'à Amadagaza. Et la MINUSCA a déposé ce matériel sensible à Nassolé. Monsieur Momokwama doit connaître la carte de notre pays, il y a été, c'est sur l'axe Berberati-Gamboula. Donc tout le matériel a été déposé là. Et donc, je soulève la question des obligations des partis dans cette sécurisation. Parce qu'il s'agit également de sécurisation. Je pense qu'il y a des choses à faire et nous tenons à ce que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Il faut tirer les vraies leçons. Aussi bien au plan organisationnel, et on reviendra, que sur le plan sécuritaire. Parce qu'il ne s'agit plus de jeter en pâture des candidats, des électeurs et des agents électoraux. Il ne s'agit plus de cela. On doit pouvoir nous garantir cette sécurité. On me répondra certainement par une pirouette qu'il n'y a pas de risque zéro, mais moi je ne voudrais pas prendre 1000% de risque pour que mes collègues, et vous le savez tous, pendant ce premier tour, 6 de nos collègues ont perdu leurs moyens de campagne, les véhicules. Certains ont été atteints physiquement. Alors, vous voulez, sur les 118 circonscriptions qui restent, qui est 118 incident. Atteintes ou incidents? Non. Je pense qu'il faudra que nous nous arrêtions pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays, parce que la démocratie ne doit pas être un pis-aller. Je parlais d'un mot que j'ai utilisé tout à l'heure, mais c'est un mot compréhensible par tous, si vous voulez. C'est-à-dire que la réponse du gouvernement n'était pas à la hauteur des attentes des députés. Nous aurions souhaité qu'on nous dise, voilà les dispositions qu'on prend. Il n'est pas question de s'enfermer sur un présumé secret défense. Nous sommes dans le contrôle de l'action gouvernementale et on doit nous dire qu'est-ce qu'on prévoit pour le peuple souverain.
Merci beaucoup.
Dont tout le monde aspire. Donc, oui, il faut que les partis engagés dans cette sécurisation prennent toutes leurs responsabilités de manière à ce que la population n'aille pas voter dans la peur et dans l'intimidation.
Oui, M. Mo, comment vous voulez réagir quelques secondes avant que je donne la parole à M. Lakosso?
Ben déjà, une chose que je voulais faire déjà à l'entrée du jeu, c'était de saluer l'élection au premier tour du député d'Alkédologo, dans sa région où j'étais superviseur de l'ANE, dans la Mbéricadéi. Ça veut dire qu'il a été possible, dans certaines circonstances, de tenir les élections à certains endroits. Et je pense, aujourd'hui, avec les discussions que nous avons avec toutes les instances dédiées, je veux parler du gouvernement. Je parle même de l'Assemblée, parce que l'Assemblée nous a convoqués dans une session de bureau de l'Assemblée et la conférence des présidents dans un entretien, une concertation sur la question sécuritaire. Et les points qui ont été soulevés par les élus de la nation étaient des vrais problèmes. Et comme il l'a dit tout à l'heure, y compris nous de l'ANE et tout le personnel électoral, nous sommes concernés en premier lieu par la question de vote, de la sécurisation du vote. Ce sont nos personnels qui sont déployés même avant les électeurs. Et nous pensons que ces questions-là sont cruciales, c'est même un élément clé dans l'organisation des prochains scrutins. Mais nous continuons les discussions avec ces instances-là. Il y a des choses qu'on peut-être on pourra pas dire en public, même si le député fait des réserves sur les questions de secret défense. Bon, c'est une position, mais nous pensons, dans nos, de notre point de vue, que le travail que nous faisons en ce moment sur la partie organisationnelle de ces scrutins à venir, nous travaillons sur plusieurs plans, plusieurs scénarios pour permettre que le vote se fasse dans des conditions au minimum où il y a la sécurisation des électeurs, du personnel électoral et, donc, ça et veut des dire résultats.
Des endroits où il y a un peu de sécurité, où vous pouvez organiser les élections, là où il y a un peu de perturbation.
Je voudrais rappeler le principe de l'élection législative. On dit les élections législatives parce que c'est plusieurs élections qui se tiennent. Chaque circonscription est une élection. Ce n'est plus la présidentielle est derrière nous. Désormais, et la loi le permet, là où c'est possible, nous allons organiser les législatives. Pour dire simple.
Actuellement.
Oui.
Monsieur Gervais Lacoste, vous avez compris, ça veut dire que même si la situation, l'insécurité est persistante dans certains endroits, là où il y a un peu d'accalmie, où il y a un peu de calme, on peut organiser les élections pour avancer et on gagne du temps, c'est ça?
Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté de résoudre globalement le problème. Ça veut dire que s'il y a un plan de sécurisation intégré. Qu'est-ce que ça veut dire un plan intégré? Ça veut dire que c'est un plan qui est capable de s'adapter à chaque situation. Et nous connaissons la situation. Et si M. Montero dit que la MINUSCA, tout le monde a été surpris par la formation de la CPC et les troubles qu'ils ont commis, c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que la CPC était mise en place avant la tenue des élections. Avant même la campagne. Et la CPC avait annoncé clairement sa volonté de boycotter les élections. Et quand on a quelque chose comme ça en face et qu'on décide d'aller en élection, on devrait prendre les dispositions qui s'imposent. Si on sait qu'il y a un groupe en face qui a un grand nombre d'éléments, qui est armé, surarmé même, qui veut boycotter les élections, ben il faut mettre en face d'eux une équipe aussi robuste pour leur faire face. Ce n'est pas ce qui était fait. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes de la société civile. On ne veut pas faire la politique de l'autruche. Si on dit qu'il y a un secret défense, c'est bien. Mais le peuple a besoin d'être rassuré pour aller aux élections. On sait qu'il y a dans beaucoup de villes, les gens de la CPC se sont retirés avec armes et bagages avant que les forces régulières ne prennent le contrôle de la ville. Est-ce qu'ils sont allés loin? Mis hors d'état de nuire, est-ce qu'ils ne reviendront pas troubler les élections? Le peuple a besoin de ces garanties-là. Parce que pour nous, à la société civile, nous voulons que ces élections se tiennent. Parce qu'il faut qu'on arrête que chaque fois, des gens hors la loi viennent s'imposer à la République. Mais le peuple ne doit pas être pris en cible. Le peuple ne doit pas être sacrifié parce qu'on veut aller aux élections, parce qu'on veut imposer la légalité, la légitimité. Il faut prendre les mesures qui s'imposent. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement et de la MINUSCA.
Et de la MINUSCA, on va poser la même question à M. Montero.
Il y a des dispositions qui sont là.
Et quelles sont les dispositions sécuritaires que la MINUSCA a préconisées pour les législatives en cours, M. Montero?
Je voulais juste clarifier. Quand je dis que c'est un plan du gouvernement, ça ne veut pas dire que la MINUSCA se lave les mains et laisse le tout sur le dos du gouvernement. Elle apporte sa contribution, celle qui est dite dans la résolution. C'est-à-dire, tous ces hommes de la police ou de la force participent à cette sécurisation. Comme je l'ai dit, depuis le 28, les différentes parties réfléchissent, essaient de voir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché pour corriger. Et quand le député parle de secret défense, effectivement, un plan de sécurisation, on ne peut pas donner des détails. Quand on dit qu'on prend des mesures pour que là où ça n'a pas marché, les choses fonctionnent mieux, on ne va pas dire qu'on décide d'envoyer 5, 10, 20 ou 30... ou 30 militaires pour sécuriser les choses. Ce n'est pas possible parce que nous savons que toutes ces informations sont extrêmement importantes et peuvent être utilisées par ces bandits de cette coalition pour perturber de nouveau. Monsieur Lacoste a rappelé tout à l'heure le contexte actuel, le contexte où il y a des victoires, mais nous constatons que ces groupes armés alliés à l'ancien président restent dans leur dynamique. Ils ne veulent pas renoncer à leur projet. Et donc, c'est pour cette raison qu'on reste engagé dans ce plan de sécurisation. On reste engagé. Vous parlez de Berberati, il y a eu, il faut le dire également, je vais le dire, il y a, pendant ce processus électoral, des menaces d'invasion de la ville de Berberati. Et quelle a été la réponse de la MINUSCA? Elle a pris des dispositions par rapport à ça également, pour prévenir. Donc, vous avez cité un cas où il n'y a peut-être pas eu de respect de l'obligation de la partie. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu ce transfert.
Sur la logistique.
Sur la logistique.
Je vais préciser tout à l'heure.
D'accord. Il y a peut-être une raison, et merci l'ANE va pouvoir l'apporter, mais très souvent nous justifions pourquoi on ne peut pas aller dans certains endroits, peut-être parce qu'on n'a pas les moyens, peut-être parce que ces éléments, encore ces criminels, ont détruit un pont, je ne sais, mais par rapport à Berberati, dans son ensemble, dès qu'on a reçu des informations sur une tentative d'invasion, la MINUSCA, les casques bleus ont pris des dispositions pour éviter cela.
Rapidement, M. Mokoma, vous voulez éclaircir sur la logistique, et puis on va rester avec vous pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour l'instant, puisque vous avez déjà précisé que les élections, là où il y a un peu de calme, on va tenir les élections. Donc ça veut dire que là où il y a un peu de trouble, il faut attendre.
Je voulais juste apporter une clarification dans la répartition des tâches entre l'ANE et la MINUSCA, pour parler de ce partenariat. La logistique primaire, c'est-à-dire tout le matériel qui doit partir de Bangui. Et pour les chefs lieux de préfecture, la MINUSCA appuie l'ANE à le faire. Et c'est ce qui se fait, et c'est ce qui s'est bien fait partout. Parce qu'en général, c'est fait longtemps à l'avance donc de la tenue des scrutins. La logistique secondaire, donc, partir du chef lieu de préfecture. Pour les communes, ça c'est l'ANE avec ses démembrements, avec l'appui donc du basket fund que gère le PNUD, qui nous permet de faire ça. Et ça veut dire que le cas que vous avez signalé, c'est un cas certainement de dysfonctionnement de la logistique secondaire, qui est de la responsabilité de l'ANE. Et comme vous le savez, c'est souvent quand nous sommes au courant d'un dysfonctionnement que nous pouvons agir. Et dans le cas d'espèce, la MINUSCA a dû porter le matériel là où il devait avoir un relais, puisque des moyens ont été mis à disposition pour ce qui concerne la Mambéry KDI. C'est moi qui ai porté les moyens à tous les démembrements de la Mambéry KDI pour qu'eux, ils louent les motos, louent les véhicules pour porter le matériel jusqu'au centre et dans les bureaux de vote. Donc c'est ce que je voulais clarifier pour ne pas qu'on mette tout sur le dos de la MINUSCA.
Cela n'a pas été fait. Et donc l'ANE devra nous expliquer pourquoi.
Je parle de dysfonctionnement et nous avons... Quand nous avons tenu l'atelier d'évaluation des scrutins du 27 décembre dernier, nous avons disséqué tous ces problèmes et nous sommes en train, depuis quelque temps déjà, de mettre en place des actions correctives de tous ces dysfonctionnements-là. Et d'ailleurs, dans les prochains jours, je vais être à Berberati pour coordonner l'ensemble des activités dans la Mambéry KDI.
Vous êtes satisfait?
Comme mes autres collègues qui sont déjà... Il y en a qui sont partis ce matin.
Oui, monsieur...
On avisera.
Oui, d'accord.
On sera ensemble.
Monsieur...
Avec votre soutien.
Oui, monsieur Momokoma, je reste avec vous pour l'aspect organisationnel, puisque vous avez précisé que des endroits où il y a un peu d'accalmie, où il y a un peu de calme, on va tenir les élections. Qu'en est-il pour les autres?
L'objectif de l'ANE, c'est de tenir ces scrutins dans les 118 circonscriptions, donc législatives, qui attendent l'élection de leurs représentants à l'Assemblée nationale. Maintenant, cette question, on ne va pas amener les électeurs à la mort. On ne va pas envoyer du personnel à la mort. C'est des risques sérieux. Il faut en tenir compte. Mais nous avons des promesses, entre guillemets, ou des garanties que le gouvernement va faire sa part avec ses partenaires sur la question sécuritaire pour nous dégager les lieux de sorte que nous puissions tenir les scrutins dans les 118 circonscriptions. Ça, notre objectif, c'est les 100.
Et d'ici le 14.
D'ici le 14. La campagne démarre dès demain.
Dès demain, oui. Mais oui. Dès aujourd'hui.
Nous continuons. Nous continuons.
Samedi,
oui.
Samedi. Samedi, oui.
Nous continuons à engager des discussions avec le gouvernement.
Et il y a un autre aspect, on va revenir, puisque l'état d'urgence se poursuit, le couvre-feu à 20h, campagne électorale, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur, rapidement, avant que je donne la parole à monsieur Javier Lacoso, vous voulez rebondir, hein?
Mais bien sûr. Donc,
monsieur Delongo, oui.
Bien sûr, si j'ai bien suivi monsieur Momokoma, nous irons à des élections différenciées. C'est cela.
C'est pour cela qu'on parle de partiel.
Il n'y a pas seulement le partiel.
Il y a le deuxième tour.
Ok. Nous irons à des élections différenciées. Il faut donc, puisque la campagne commence à minuit, il faudra qu'on explique à ses candidats et aux électeurs où les élections auront lieu, à commencer par la campagne. Parce qu'il ne faudra pas attendre le dernier moment pour que des candidats se ruinent, se mettent en difficulté et en danger pour apprendre qu'il n'y aura pas d'élection là, mais il y en aura ici. Non. Je pense qu'il est temps de prendre cette décision ici et maintenant. J'espère, au sortir de notre discussion, on prendra cette décision. Sinon, on va une fois de plus jeter en pâture les candidats, les électeurs, vos agents électoraux, y compris vous-même et la population. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a lieu d'être fait ici et maintenant ?
Vous souhaitez répondre à cela ?
L'idéal oui. aurait été que les compatriotes qui ont choisi la voie des armes pour mettre en péril la vie de la nation puissent s'arrêter. Si on arrête cette guerre-là, quel serait le problème autour des élections sans sécurité ?
Mais si
l'idéal serait ça.
Mais s'ils ne veulent pas s'arrêter,
parce que
la force reste à la loi, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant?
Je parle avec un élu de la nation. J'ai l'impression qu'on oublie qu'il y a des bandits qui sont en train de perturber l'ensemble de la vie nationale. Il faut qu'on en parle aussi avec beaucoup de force. Oui.
Nous le disons. Nous ne les épargnons pas. Mais nous ne pouvons pas penser, puisque le gouvernement nous a annoncé et on est dans un état de guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Quel type d'élection dans une guerre? Voilà la vraie problématique.
Monsieur Jevela Kosso.
Oui, moi je pense que c'est là où la créativité politique devrait entrer en jeu. Parce que j'ai comme l'impression que le gouvernement, les autorités centrafricaines fonctionnent comme s'ils ont une contrainte sur eux, comme s'ils sont obligés de mal faire les choses, comme si ce ne sont pas eux qui ont les rênes du pays. Mais nous sommes en guerre. Ben, on doit adapter. Déjà, l'essentiel, à mon avis, l'essentiel est déjà sauvé. L'élection présidentielle est déjà clôturée et il n'y a pas risque de que le mandat du président pose problème, tout ça, ça c'est déjà fait. Alors, je ne vois pas pourquoi on doit se précipiter d'organiser les élections dans le contexte actuel. Je ne suis pas en train de soutenir la position de l'opposition. Non, je suis en train de donner un discours réaliste. Nous sommes dans une situation.
Mais puisque les élections vont se tenir selon les circonstances du terrain, ça veut dire qu'on peut espérer d'en finir avec les élections législatives d'ici même 6 mois après l'état d'urgence ou bien un an.
Mais vous-même, ce que vous dites, vous voyez, c'est ridicule de se comporter comme ça. C'est notre pays. Et c'est nous avons des autorités qui ont le pouvoir sur ce pays. Pourquoi ils ne décident pas? Pourquoi ils ne prennent pas les bonnes décisions? Parce que nous sommes en train de poursuivre, pas 2 lièvres, mais plusieurs lièvres à la fois. Même 2, on ne peut pas réussir à poursuivre 2 lièvres, mais nous sommes en train de poursuivre plusieurs lièvres. Mais on n'en attrapera aucun. Et ça veut dire que nos problèmes vont demeurer. Et tout le monde soutient le gouvernement aujourd'hui dans la campagne militaire qu'il est en train de mener contre ces bandits. Mais faisons ça, réglons ça, puisque le mandat des députés court même jusqu'en mai.
Demain.
Au mois de mai, on a le temps de le faire. Et ça veut dire que.
Et demain, on n'a pas ce temps quand même.
Selon ce que dit le rapporteur de l'ANE, le 14, toutes les 118 circonscriptions ne vont pas connaître des élections.
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit nous travaillons, l'ANE travaille, de sorte qu'il y ait les élections partout. Tous les déploiements que nous sommes en train de faire, par exemple, au jour d'aujourd'hui, ce matin, avec l'appui de la MINUSCA, toute l'équipe des formateurs, des experts, des superviseurs est partie sur la base Koto. Posée à Lindao, ils vont se déployer à Kimbe, à Mobaye et tout le reste. Et la suite se fera.
Et alors que nous savons que dans la base Koto, la situation sécuritaire n'est pas encore totalement maîtrisée.
Mais déjà, les forces loyalistes ont reconquis plusieurs villes déjà. Est-ce qu'on peut espérer
C'est ce que nous espérons tous. Personne de normal qui est vraiment centrafricain peut souhaiter que les forces négatives continuent de contrôler notre pays. Et nous, au niveau du GTC, c'est ce que nous avons toujours demandé au gouvernement. Si cette opération avait commencé quand le GTC l'avait demandé, au jour d'aujourd'hui, ce problème serait derrière nous et qu'on devait être tranquillement en train d'organiser les élections. Mais maintenant, il faut que les choses soient bien faites parce que les Centrafricains, ils l'ont démontré. Ils ont envie d'exprimer leur droit de vote. Les Centrafricains ont cette envie-là. C'est un peuple éveillé. Ils ont envie que c'est eux qui choisissent leurs représentants. Mais il faut qu'on crée les conditions. Il faut que je disais tout à l'heure, je reviens dessus, on ne demande pas qu'on révèle les secrets défense. Mais il faut, parce qu'il y a une partie dissuasive dans la sécurisation. Il faut que le peuple sente que la sécurité est là. Vous voyez comment les gens réagissent quand les FACA entrent dans les villes. Ça veut dire que les gens ont soif de sécurité. Populaire. Voilà, les gens ont soif de sécurité, les gens ont soif de voir la présence de l'État. Mais il faut que cette présence-là soit assurée pour que les élections puissent tenir. Parce que vous voyez, ça va encore être une sorte d'échec.
Et ça, la
on ne fait pas les élections sur les 118 circonscriptions.
La MINUSCA maintient toujours sa position pour la réussite de ce processus en cours, sur le plan sécuritaire et même organisationnel, puisque déjà le rapporteur général vient de l'annoncer que ce matin, il y a un nombre suffisant des acteurs de l'ANE qui sont déjà
partis sur la base côte. Voilà. Et ainsi de suite, sur l'ensemble.
Non seulement elle y tient, mais elle y travaille. Comme je l'ai dit, il y a des concertations, des réunions hebdomadaires dans le cadre du COSEM, l'état-major des FACA, les directions de la police, de la gendarmerie, avec notre commandant de la force et le chef de la composante police. Il y a des discussions techniques qui se font. Et sur le terrain, comme nous nous sommes adaptés par rapport à cette menace, Bossangoa, Bossembélé, de cette coalition de groupes criminels, nous allons également nous adapter. Et l'objectif de ces rencontres avec la partie nationale, c'est ça. Essayer de travailler pour que ce qui s'est passé le 27 décembre ne puisse se reproduire dans le cadre de ces nouvelles échéances.
Et aussi la MINUSCA se plaint de l'effectif restreint de ses soldats sur le terrain. C'est pourquoi la demande de votre représentant pour un nombre supplémentaire de 3700.
Cette demande, comme il est indiqué dans le rapport du secrétaire général, c'est pour permettre de répondre au contexte actuel, au contexte sécuritaire. Comme je l'ai dit tantôt, cette coalition de groupes armés alliés à l'ancien président Bozizé reste dans cette logique d'attaque, de perturbation des institutions centrafricaines qui ont été élues. Il y a la question de la route principale d'approvisionnement. On a dû, comme l'a dit le porte-parole de la force, fermer certains postes militaires avancés de certains villages pour consacrer ses effectifs dans la sécurisation.
Et ces effectifs, vous le comptez avant la tenue du 14 mars des élections?
C'est au Conseil de sécurité de décider de la date, mais la demande a été faite. Il y aura une résolution dans ce sens.
Voilà, on tend vers la fin de ce débat politique, mais on veut savoir comment sécuriser les acteurs électoraux, y compris les électeurs et les candidats sur le terrain. Première question à vous, monsieur Théophile Momokoma.
Nous attendons que cette sécurisation puisse être quelque chose de concret sur le terrain. Nous sommes demandeurs de la sécurité, comme les électeurs. Nous souhaitons que les garanties annoncées par le gouvernement puissent être une réalité.
Monsieur Gervais Lakosso.
Je crois que c'est un vœu proche de celui de l'ANE. Nous sommes la population, nous sommes, disons, bénéficiaires ou acteurs de troisième plan des élections. Nous sommes ceux qui vont aller voter. Tout ce que nous demandons, nous appelons de tous nos vœux que le dispositif de sécurisation des élections soit réel, soit effectif et soit capable de s'adapter à chaque situation qui peut se poser. Pour que cette fois-ci, même pendant que les gens sont en train de voter, s'il y a un envahissement, il faut qu'on fasse face à cela pour que les gens puissent voter jusqu'à la fin. Bon, je dis ça n'importe quoi parce que je ne suis pas spécialiste de la sécurité, mais je veux qu'un dispositif réel, puisque les dés sont déjà jetés, on va aller aux élections, il faut qu'un dispositif réel et robuste soit mise en place pour ne pas qu'après encore, on vienne nous dire que non, on ne savait pas si, maintenant on sait. Au premier tour, on peut dire même si ce n'était pas vrai, mais là, on ne peut pas dire. La situation est là, la situation est dangereuse, nous allons aux élections sous une menace. Il faut faire face à cela, et réellement.
Monsieur Dorogo, vous êtes vice-président de l'URCA, de l'opposition. Quel est votre point de vue sur cette question tout à l'heure?
Mais mon point de vue, vous le savez, c'est de continuer à exiger que cette sécurisation-là ne soit pas virtuelle. Il faudra qu'on sente sur le terrain. Et comme on le sait, on l'apprend, à partir de minuit, la campagne démarre. Et la question, vous l'avez subrepticement soulevée.
On va revenir, on va y revenir.
La question de l'observance du couvre-feu. Parce que les élections, la campagne électorale, c'est 24 heures sur 24. Alors, je ne sais pas quel type d'alchimie on trouvera pour permettre à cela d'avoir une campagne normée. Parce qu'il ne s'agit pas de nous sortir un autre principe que ce serait une campagne dite campagne de guerre. Non. C'est une campagne et cette campagne-là doit être une campagne normale pour permettre aux candidats, pour permettre aux électeurs de se former un jugement et d'aller sereinement voter. Et là, je n'ai pas de réponse précise. Je continue d'exiger.
Cette question, tout à l'heure, on va revenir, on va parler de la sécurisation des acteurs électoraux. On finit avec M. Vladimir Motero sur cette question. Et la seconde question sur comment va-t-on faire pour vraiment tenir la campagne électorale dans la sérénité et sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Mais d'abord, sur la question sécuritaire, M. Vladimir Montero, comment on va faire pour sécuriser les acteurs électoraux, puisque cela relève de la compétence de la MINUSCA, et sur le terrain, vous l'avez déjà annoncé, mais on veut savoir davantage.
Comme je l'ai dit, la MINUSCA a fait sa part en décembre dernier. Elle et la partie nationale ont tiré les leçons par rapport à la sécurité et ils essaient d'adapter pour qu'il y ait cette sécurisation. Mais la sécurité est l'affaire de tous. Elle est aussi l'affaire des partis politiques, des citoyens et des populations. Il y a des endroits où...
C'est pour ça que je suis ici.
Il y a des endroits où il y a eu des menaces de certaines composantes de la population à l'endroit des électeurs. Que font parfois certains leaders ? Notamment l'ancien président qui est derrière cette rébellion. Il met en danger sa population. Tout à l'heure, le rapporteur général de l'ANE faisait ce vœu pieux, comme l'a dit Lakosso, que les violences arrêtent. Qu'attend-il pour penser à son peuple ?
Les faits sont là, mais que peut-on faire ?
Nous, on fait notre part, le gouvernement fait sa part, mais tout le monde doit faire sa part en termes de sécurisation. En termes de sécurisation, ça peut être à travers la dénonciation, ça peut être également à travers un appel à la fin des violences.
Rapidement, M. Omo, comment sur la question de la campagne électorale qui s'ouvre dès minuit aujourd'hui. Mais après, le couvre-feu est là, ça commence de 20h à 5h du matin et l'état d'urgence de côté, comment cela va se faire et quel est le format de cette campagne?
Le format de la campagne, c'est pas l'ANU qui le décide, c'est la loi, c'est la loi. Tant que la loi n'a pas été modifiée, on doit appliquer la loi.
Donc ça veut dire que...
Je n'ai pas dit, ça veut dire... Nous attendons que les dirigeants du pays puissent clarifier la situation. Nous sommes allés vers les instances dédiées. Nous avons échangé. Des suggestions ont été faites. Nous attendons des décisions.
Monsieur Lakosso.
Mais je ne dirais pas mieux parce que la campagne est censée se faire 24 heures sur 24 et puis il y a un couvre-feu qui commence à 20 heures. Donc je pense que nous avons des autorités et c'est eux qui dirigent le pays. Ils peuvent exceptionnellement pour la période de, je dis ça en termes de suggestion, hein, je réfléchis à haute voix comme on dit, exceptionnellement pour la période de campagne, repousser le couvre-feu à minuit. Et ça peut se faire parce qu'on ne va pas demander de lever totalement le couvre-feu parce que ce n'est pas pour s'amuser qu'on a posé le couvre-feu. Mais on peut très bien pousser ça à 24 heures pour laisser le temps. Je ne vois pas, les équipes de campagne ne vont pas battre campagne jusqu'à minuit. Si on pousse à 24 heures, ce serait suffisant et exceptionnellement pour cette période-là. Et après, on pourrait ramener ça à 20 heures comme actuellement.
Rapidement.
Un autre décret peut le faire. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais juridiquement, on peut trouver la formule pour le faire.
Monsieur Dorogo, vous député, dans votre demande, est-ce que cette question a été posée au gouvernement?
Bien évidemment. Je l'ai dit, je le redis, comme vous me posez une fois en plus la question, je le dis. Je voudrais bien qu'on m'explique un peu comment faire des élections en temps de guerre. J'ai l'impression qu'on surfe autour. C'est une question centrale. Comment faire des élections en temps de guerre? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous comprenez? Maintenant, c'est quel type d'élection auquel nous voulons convier nos compatriotes qui sont de surcroît souverains primaires. C'est auprès d'eux. Je ne suis qu'un représentant. C'est le peuple souverain qui est dépositaire de ce pouvoir. Alors j'ai l'impression que ce peuple souverain est malmené, littéralement malmené, pour faire son travail, pour accomplir sa mission première. Et donc il faudra que, quelque part, nous puissions rendre intelligibles nos actions. Faire en sorte que nous ne puissions pas nous muer en une espèce d'être incompris qui souhaite en même temps son bonheur, mais également sa disparition. Il faudra que nous nous mettions dans cette posture, dans cette logique. Parce qu'aujourd'hui, la question fondamentale se pose. Comment aller à des élections sans peur ni intimidation? La question mérite une réponse tout aussi claire que je n'ai pas.
Il y a aussi un autre travail qui attend les candidats, c'est de convaincre les électeurs, parce que vu la situation sur le terrain, est-ce qu'on ne peut pas continuer dans ce sens à les ramener?
Comment convaincre des électeurs apeurés?
Pour aller voter.
Comment convaincre des électeurs apeurés?
Voilà, et c'est la fin de ce débat politique Patara d'aujourd'hui. Nous le consacrons, comme vous le savez, sur les défis sécuritaires et organisationnels des élections législatives et partielles en République centrafricaine. Et nous avions reçu autour de cette table M. Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Merci d'être venu, monsieur.
Merci.
Nous avions aussi M. André Nalke-Dorogo, député de Berberati 4, vice-président de l'URCA, ancien ministre. Monsieur, merci.
Je vous remercie.
Nous avions reçu M. Théophile Momokwama. Merci aussi d'être là.
Merci.
Et puis, Gervais Lakoso, vous êtes coordonnateur de la société civile, du groupe de travail de la société civile. Merci pour votre participation.
Merci.
À la technique, c'était le travail de Anne-Alix Pounemati, Armando Anguindi à la manette. Nous allons nous retrouver semaine prochaine pour un autre sujet. Au revoir.